Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussy.
Il est 11h05 tout pile sur RMC. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans les grandes gueules du sport, on est toujours avec David Douillet, Fred Weiss et Sarah Pitkowski. C'est la dernière heure. On parlera du Tour de France, hommes et femmes, dans quelques instants pour tirer le bilan de nos Français. Et on terminera bien sûr par les jeux du sport. On vous rappelle que tout ce week-end, dans les grandes gueules du sport, à l'occasion du Tour de France femmes, Basic Fit, partenaire fitness officiel, vous offre un an d'abonnement pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement Basic Fit, vous envoyez sport, S-P-O-R-T, au 732-16. Mais avant de jouer, on va ouvrir tout de suite les portes du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Hier, dans les grandes gueules du sport, on écoutait Pauline Ferrand-Prévot, après son échec sur le Mont Ventoux, nous dire qu'elle n'était pas au niveau et que les autres étaient meilleurs. Que l'on croit ou non à son discours, puisqu'on vous rappelle que la Française a abandonné hier avant le départ de l'étape, elle souligne un point important, reconnaître que les autres sont meilleurs que soi. C'est de ce sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et dont je voudrais que vous parliez surtout. Est-ce que vous aussi, à un moment donné dans votre carrière, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus au niveau? Et comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'est dur finalement de reconnaître ses limites et de s'y confronter, Sarah? Je sais pas pourquoi je me tourne vers toi en premier.
Bah parce que j'en ai eu beaucoup.
Des limites.
Bah des limites que je pensais être des véritables limites, parce qu'on est dans un sport où les gabarits sont différents. Donc j'ai commencé le tennis où je jouais face à Arancxa Sanchez, après Martina Hingis, et puis après sont arrivés des gabarits comme les sœurs Williams. Et effectivement, il y avait un fort décalage en termes de puissance, et convaincu que finalement, j'avais pas assez d'arguments pour. Et comme j'ai arrêté assez tôt, je suis restée là-dessus en disant, par ma petite taille, par mon déficit de puissance, il y a des choses que je pourrais pas faire. Mais en fait, en commentant beaucoup de tennis après, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis allée trop vite en besogne. C'est-à-dire que j'aurais pu compenser. On a vu des petits gabarits.
Pardon, mais c'est pour ça que t'as arrêté?
Non, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Mais en tout cas, je me fixais un plafond des joueuses où.
Une croyance limitante?
Bah oui, quand ça servait à 190 et moi, c'est vent dans le dos, je suis à 145, 150. Et finalement, je pouvais pas gagner des points facilement, mais il fallait que moi je bagarre sur mes jeux de service en plus des jeux de retour et que mon jeu était fait d'échanges et non pas de points rapides. Forcément, moi j'ai une dépense d'énergie et une fatigue qui s'accumule, alors qu'en face, quand j'avais Davenport qui servait ou Serena Williams les premières années, je me trouvais sans armes, et donc j'ai arrêté très tôt ma carrière. Mais en commentant du tennis par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des moyens de contrer ces choses-là, mais j'ai pas pris le temps de me remettre en question ou de retravailler certaines choses pour pouvoir essayer de minimiser ce qui était au départ un déficit, mais qui aura un moment aurait pu basculer. Je dis pas que je les aurais battus, mais en tout cas j'y serais allée avec un autre état d'esprit. Et c'est là qu'en fait je me suis fixée bêtement ou trop facilement un plafond de verre en disant mon top 30 il est déjà très bien, alors que j'ai vu des joueuses, alors je me compare pas à Justine Hénin, mais ça a été des gabarits plus petits, des Sarah Errani, des Francesca Schiavone, c'était des gabarits qui étaient plus musculeux, qui étaient plus petites, mais qui ont compensé. Et moi j'ai pas fait ce travail là parce que je pensais que j'avais pas ces armes-là à développer.
Ça a été dur justement psychologiquement pour toi de reconnaître justement que t'arrivais à une limite par rapport à ces femmes-là. Est-ce que c'est difficile de faire le constat, de l'accepter? Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que ça a été difficile pour toi de le dépasser finalement, parce que t'étais persuadée que cette limite-là, tu ne pouvais pas aller au-delà.
Oui, je pouvais pas aller au-delà, qu'on s'entende bien, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que en étant propre sur toute la durée de ma carrière. En fait, non, je pense que même ça a été un échappatoire en disant je peux pas. Le plus difficile, c'est de dépasser son plafond de verre et de se rendre compte qu'on a des limites. Mais quand on se trouve des excuses, en fait, on se le met dans la tête par la suite et on a un échappatoire. Mais je regrette de ne pas avoir pris plus de risques que ça. Peut-être de m'être vraiment confrontée à mes propres limites physique et pas celle que je m'étais mise dans la tête. C'est un peu mon regret. Et je trouve que c'est beaucoup plus courageux de beaucoup plus courageux d'aller se confronter à ses limites et d'aller au bout que de finalement s'en imposer.
David, justement, toi qui es dans un sport de
en direct,
t'es dans un sport de confrontation directe. Je le disais tout à l'heure, où tu te confrontes justement au niveau de ton adversaire dans un combat, tout simplement. Est-ce que toi, t'as rencontré certaines de tes limites pendant ta carrière?
Mais tout le temps, tout le temps. Non, mais tout le temps. Et en fait, l'idée est en venant en complément de ce que vient de dire Sarah. Tu fais avec ce que tu as au moment où ça se passe. Je donne juste un exemple. J'ai un accident de moto après mon titre olympique de 96. Là, je passe du stade d'athlète à handicapé. Et un an plus tard, jour pour jour, j'ai un titre mondial à défendre à Paris en plus. Donc là, je me mets dans une optique de renaissance. Tu vois, c'est l'histoire du phénix, quoi. Tu vois, vraiment, je pars de zéro. Je pars même négativement pour essayer de redevenir un sportif et puis après un athlète et puis après un athlète compétitif et un athlète qui est en capacité de défendre son titre. Tu vois, il y a rien de gagné et un an c'est hyper court. Et ce qui fait que j'arrive à ces Championnats du monde en septembre 97 et je suis à 70% de mes capacités. Vraiment, et je le sais.
T'en as conscience.
J'y vais. J'en ai vraiment conscience et je me dis bon bah je vais faire avec ce que j'ai vraiment et je vais faire autrement parce que je peux pas faire ce que je veux, j'ai pas les outils, j'ai pas mon physique qui est là à dispo comme d'habitude, donc j'ai adapté, j'ai changé et je la fais courte, mais je gagne la finale face à celui que je rencontre après aux Jeux Olympiques de 2000. Je gagne la finale, mais c'est pas une finale dont je suis fier. Parce que j'ai gagné avec un avantage lié à des pénalités, mais parce que je pouvais pas le faire tomber. Donc j'ai attaqué plus que lui, il a été pénalisé, il a pris une pénalité d'avance, etc. J'ai joué hyper tactique, mais pourquoi ? Parce que j'avais pas les moyens et puis ça s'est pas trop mal passé, tu vois.
T'as compris quelles étaient tes limites aussi ce jour-là.
J'ai pas compris, je les avais les limites, tu vois. Tu les prends en pleine poire et tu te dis bon, voilà, tu découvres ton jeu de cartes et tu dis waouh, ben j'ai pas beaucoup d'atouts. Il va falloir que je réfléchisse 3 minutes et que je fasse autrement et que je m'adapte. Voilà.
Tu savais malgré tout à ce moment-là que c'était ponctuel a priori dans ta carrière puisque tu étais en phase de récupération aussi après cet accident. Est-ce que t'as arrêté ta carrière toi au moment de ton titre olympique, le deuxième à Sydney, David? Est-ce que...
Mais pour les mêmes raisons.
C'est ça qui m'intéresse.
Bah oui, pour les mêmes raisons, parce que ce physique-là abîmé par un accident, bah après il a fallu que je le gère. Il était toujours là. Alors je suis remonté à des indices plus hauts, mais j'ai plus jamais eu le même corps. Ce qui fait que en 2000, 3 ans plus tard, mais j'étais au bout du bout. J'avais, tu vois, j'étais dans mon cockpit personnel et j'avais tous les voyants en rouge qui s'allumaient les uns derrière les autres. Et là aussi, et je savais que je pouvais plus aller plus loin. Il fallait que j'arrête parce que là, ça pétait de tous les côtés. Alors j'ai donné le maximum pour cette dernière compète et ça s'est bien passé. Mais j'ai risqué et j'étais sûr de rien, je vous assure. Et c'était très difficile. Mais après, je savais que je pouvais pas repartir comme ça pour 4 ans. C'était impossible. C'était déjà très juste pour cette compétition-là. J'étais limité. Il faut l'admettre.
Est-ce que ça a été dur justement pour toi de l'admettre, de reconnaître?
Mais oui, c'est d'une injustice totale parce que toi, tu te penses éternel. Tu penses que tu vas toujours être comme ça, le plus fort, le meilleur, le machin, avec un physique que tu peux gérer, etc. Non, le physique, tu peux pas le gérer. Alors tu peux le gérer, tu peux l'optimiser, mais à un moment donné, il te rappelle à l'ordre. Il est usé, il est cassé. Il y a des cicatrices qui sont profondes et tu peux pas aller au-delà. Voilà, tu prends en pleine poire que t'es pas un surhomme en fait. Et comme t'es un compétiteur dans l'âme et que c'est ce que t'adores faire, etc. Et ben, du jour au lendemain, tu te dis, je peux plus le faire. Et c'est affreux. C'est affreux parce que tu demanderais à un artiste, à un écrivain, à un mec qui adore son métier, que demain, t'as plus le droit de le faire parce que tu peux plus le faire. C'est ce qu'il y a de plus horrible. Et c'est ce que vivent les athlètes en général.
Et du coup, au moment où tu prends cette décision d'arrêter, est-ce qu'il y a une forme de soulagement ou au contraire t'es encore en train de ressasser ces limites qui sont difficiles à accepter?
Mais non, c'est pas le relâchement. Tu te dis c'est injuste.
Oui. Tu rumines
c'est
encore.
Normal. Tu rumines. Mais j'ai 57 ans, je rumine encore aujourd'hui et c'est complètement idiot. Mmh. Voilà. Et si demain, je l'ai déjà dit à l'antenne, mais si demain tu as une baguette magique et tu me dis voilà, je te donne un nouveau corps et t'y vas, j'y vais tout de suite à la seconde. Parce que j'adore ça, parce que c'est dans mes gènes et que je suis limité avec ce corps là qui tient pas le choc quoi. Et je fais avec et c'est comme ça.
Fred, est-ce que tu as ressenti ces limites là dans ta carrière? Est-ce que tu étais confronté à certaines limites, peu importe lesquelles?
J'ai été confronté à ces limites toute ma vie en fait, toute ma vie de sportif, parce qu'il faut se rendre compte que j'ai un gabarit quand même hors norme, c'est moins qu'on puisse dire. À l'époque j'étais beaucoup plus maigre, mais c'est quand même un gabarit qui était assez incroyable. Il faut se rendre compte que quand je suis arrivé au Krebs de Nancy, le coach me dit: Fred, il faut faire un tour de piste. Je fais un tour de piste, j'enlève mes chaussures, je lui donne, je dis écoute, j'arrête, trop dur.
Première limite, parce que
physiquement je pouvais pas tenir plus qu'un tour que j'avais dû faire en 4 minutes. Et là j'étais sur une limite et mon ego. Et en fait, il assume travailler en disant ton ego est important. Donc, tu vas pas te cantonner à avoir cette limite. Tu vas avancer et te servir de cette limite. Et à partir de ce jour-là, mon ego m'a servi dans mes limites. Je vais à l'INSEP, j'étais le plus mauvais. J'étais blessé, j'étais le plus mauvais. Et donc, justement, mon ego me disait allez, il faut que je travaille un petit peu plus dur. Il faut que je sois meilleur. Il faut que je sois plus souvent à la salle parce que je suis pas le meilleur. Et mes limites, c'est quand je joue contre ces mecs-là, ils me dominent, ils dominent. Donc, je suis resté 3 ans. Au bout de 3 ans, c'était plus le cas. J'arrive à Limoges dans l'équipe de 93. C'est-à-dire ceux qui sont champions d'Europe. Vous savez, à jamais les premiers. C'est Limoges les premiers dans l'histoire. Et j'arrive dans cette équipe-là. La première passe que me fait Richard Dacoury, je la prends dans la tête. Je me dis qu'est-ce que je suis là? Est-ce que j'ai pas atteint ma limite de capacité de joueur de basket? Ça va à une vitesse incroyable. À la limite, je croise tout le monde au milieu de terrain tellement ils vont vite. Je sais plus quoi faire. Et là, encore une fois, c'est l'ego qui m'a permis d'avancer. Pendant toute une période, l'ego te permet d'avancer parce que justement, t'as ces capacités physiques qui augmentent. Tu travailles et t'essayes de rattraper et de combler ce retard. Mais à un moment, évidemment, ça te rattrape. Et moi, à la fin, je pouvais plus.
T'évoques justement quelque chose d'important, Fred. Tu parles de cet ego. L'ego qui est évidemment au cœur d'une vie de sportif, qui peut être, comme tu l'évoques toi, à la fois stimulant. C'est-à-dire que c'est aussi cet ego qui t'a poussé à vouloir passer au-delà de ces limites-là, de les dépasser. Et puis, il y a l'ego aussi, parfois, qui peut t'inhiber aussi, qui peut te dire tu n'es pas capable. Et comme le disait Sarah, qui te sert d'excuse aussi, quelque part.
Mais j'allais y venir, parce qu'en fait, je suis rarement d'accord avec Sarah, par définition.
Mais sur
un point, je suis d'accord. Moi, j'ai eu une limite quand je suis allé en NBA. Quand j'ai fait la Summer League de NBA, je sortais d'une énorme blessure au dos. Il faut se rappeler quand même que le professeur Saillant m'avait dit que je ne rejouerais peut-être plus au basket. Et je me retrouve à faire une Summer League, donc une ligue d'été, après avoir été drafté. Donc c'est un peu le passeport pour arriver en NBA juste après. Je suis déjà drafté, j'ai déjà un contrat garanti, mais c'est le moment de se montrer. Vu mes limitations de l'époque, je me suis rendu compte que ça allait trop vite, encore une fois, avec César. Et j'ai eu peur. Ouais. Et j'ai pas osé.
Mais t'as eu peur de quoi, au final?
En fait, j'ai eu peur de pas y arriver. Ouais. C'était pas mon ego là qui parlait, parce que mon ego aurait dû dire ouais, allez, c'est un super challenge. Non, c'est la trouille. C'est la trouille. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment au niveau? Est-ce que je suis pas un imposteur?
Remise en question totale.
On se pose toujours ce genre de questions. Mais jusque-là, j'avais trouvé la parade en me disant, je vais travailler et je verrai. Sauf que quand t'es en NBA, t'as pas le temps. Et le fait de pas avoir de temps, de pas avoir de possibilité de se replier sur soi un petit peu et de se dire, allez, je vais prendre mon temps, je vais travailler, y a pas le temps. Quand t'es à New York, t'as pas le temps. J'ai eu peur. Je suis revenu en Europe. Je le regrette. Mais voilà, il y a des moments où t'es plus faible que d'autres aussi. Hein.
On recherche plus notre zone de confort.
Exactement.
Aussi,
donc je suis revenu en France et quand un club à l'étranger m'a proposé, là aussi remise en question par contre, mais moins importante que d'aller en NBA, mais quand même, parce que quand tu vas jouer en Grèce ou en Espagne, tu joues plus comme français en fait. Mm-mm. Tu joues comme étranger dans un club. Et donc le poids de la pression est beaucoup plus important. En fait, tu n'es plus un joueur du pays. T'es un joueur que t'as pris dans un autre pays. Pour le ramener jouer là. C'est une pression énorme.
Ah bon?
C'est une pression énorme, évidemment.
J'aurais cru au contraire d'être éloigné de ton
pays. Ouais.
De ton pays ou même des médias qui te suivent.
Oui, mais
du fait que tu sois un membre de l'équipe de France, t'enlèves une forme de pression.
Sarah, ils t'encouragent, ils sont avec toi, ils sont plutôt positifs avec toi. Quand t'es à l'étranger, t'es un mercenaire. T'es bon, c'est cool, t'es pas bon.
Il n'y a pas d'état d'âme.
T'es plus là, en fait. Mmh. Et là, j'ai subi cette pression. Est-ce que je suis capable de le faire? Je suis allé pour Bozidar Maković, un des plus grands clubs, un des plus grands coachs européens.
Mais on est plus méchant avec les Français en France. On est plus intransigeant.
Mais bien sûr que non. Mais c'est évidemment le contraire. C'est le contraire. Et quand on parle de la presse en France, mais j'ai envie de rire. Ouais. C'est une blague.
En Grèce, ça ne va pas la lire. Tu la comprends pas. Alors, tranquille.
En Grèce, je dois te confirmer que je comprenais pas. Oui, sauf que malheureusement, je parle couramment espagnol et l'espagnol, je comprenais bien. Et je peux te dire que quand ils ont envie de te massacrer. C'est pas du tout fait avec une petite serpette, hein. Non, c'est avec la bonne serpe qui te découpe en morceaux.
Est-ce que quand t'arrives justement à Malaga, en Espagne, parce que on parle un petit peu des limites qu'on se pose avec soi-même, de notre corps, David parlait de son corps, etc. Il y a jamais eu de limite par rapport au niveau des autres, de tes adversaires aussi, de tes coéquipiers, de te faire prendre la place dans le 5 de départ, etc.
Ah ben oui, bien sûr que t'as peur, parce que quand t'arrives, c'est pas acquis. Encore une fois, quand t'es un joueur étranger, c'est pas exactement le même positionnement. Mais moi, j'ai juste un exemple très concret d'un match que j'ai fait. J'ai joué contre le baby shack grec qui s'appelle Sophocles Chortianitis, 2m6, 156 kilos.
Wow.
Alors. Concrètement, quand on me voit, on n'est pas en train de te dire si je suis un gringalet. Vraiment pas.
Non.
Sauf que là, je me suis rendu compte que mes limitations physiques étaient hyper importantes contre ce mec. Je poussais toutes mes forces, je transpirais. Le mec se retournait en me regardant en disant « Eh, moustique, t'arrêtes de me chatouiller. »
Il donnait un petit coup de
coude. Voilà, un petit coup de coude. Il dit « Arrête un petit peu, ça me chatouille. » Et là, je me suis rendu compte de ma limitation physique et ça fait de la peine. Quand on est un mec de mon gabarit, ça fait de la peine.
Mais ce n'est arrivé qu'une fois.
Non, c'est arrivé deux, trois fois, mais c'est vrai, pas extrêmement fréquemment. Mais à ce niveau-là, se sentir un moustique. Moi, waouh,
c'est vraiment. Parce que moi, c'était courant dans les vestiaires, en fait.
Oui, mais voilà, tu vois, en fait, on a la même problématique inversée. C'est-à-dire que toi, t'avais des limitations par ton physique parce que t'étais un peu plus petite, et moi, j'avais des limitations physiques parce que j'étais très grand, donc centre de gravité très haut, etc., etc.
Ouais, non, mais c'est sûr. Après, David, est-ce que toi, t'as eu cette, est-ce que tu sens à un moment donné, peut-être aussi, on parle pas suffisamment, mais des jeunes, la nouvelle génération qui arrive et qui pousse quand toi, t'es sur la deuxième partie de ta carrière, j'ai envie de dire, est-ce que ça peut faire peur aussi, d'avoir, ces potentielles limites qui arrivent et on vous pousse finalement un peu vers la sortie avec cette nouvelle génération de plus, meilleure de jour en jour?
Bah bien sûr, tu récupères moins, il te faut plus de temps, tu tétanises plus, enfin tu t'aperçois, t'as quand même beaucoup d'indices physiques et physiologiques qui te disent, voilà, le petit copain qui a 10 ans de moins que toi,
Là, ça doit toucher à l'ego aussi, j'imagine.
Oui, ça touche à l'ego, puis ça te remet à ta place. Et comme le disait Fred, mais t'as d'autres armes, t'as ton expérience, l'énergie, tu la gères différemment. C'est-à-dire que là où t'en mettais beaucoup avant, de manière quelquefois peut-être inutile, bah tu le fais plus. Etc. Donc ça, on arrive à peu près à équilibrer les choses, mais jusqu'à un certain moment. Il y a un moment donné, il y a trop de différences et il faut l'accepter. Mais c'est cette histoire du moustique, je reviens un petit peu sur ce que disait Fred. Je l'ai vécu aussi avec un Chinois qui faisait 2m15, 145 kilos. Et j'étais mais c'est une poupée de chiffon dans ses bras, je te jure. Un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude, je te jure. Et je me suis même vu rire pendant le combat, tellement c'était. J'arrivais même pas à l'attraper avec son allonge de titan. C'était un truc de dingue, quoi. Mais et ça fait drôle parce que toi, quand tu. T'as pas l'habitude de vivre ça et tu le vis en direct, je peux dire. Et puis en judo, tu sais, ça dure 5 minutes le combat, donc c'est hyper rapide. Il faut que tu digères le truc tout de suite, quoi, parce que si tu le digères dans au bout d'une heure, c'est fini. Enfin, tout est fini, tout est perdu.
Oui,
mais c'est des moments de grande humilité, voilà. C'est très intéressant.
T'es dans une catégorie où forcément il y a des gabarits qui peuvent être différents.
Ah ben, il y a pas de limite.
Bah voilà, c'est ça. C'est pour ça. Sarah, cette confrontation aussi avec les autres, ce moment où tu te dis. Est-ce que c'est dur de s'avouer que l'autre est meilleur que soi, tout simplement? Est-ce que c'est dur de s'avouer ça ou finalement tu le vivais très très bien et t'avais pas de soucis justement d'ego dont on parlait à te dire
Non, c'est difficile, et ce que je répète, ce que j'arrête pas de répéter depuis des années dans le tennis, c'est qu'on perd une fois par semaine. Et donc ce côté de la défaite, si tu ne sais pas vivre avec la défaite, si tu ne sais pas la ranger quelque part et en tirer quelque chose de positif, le tennis est un sport qui est difficile à vivre. Je répète et je me répète souvent dans la sémantique, c'est-à-dire que même quand tu fais un super tournoi, t'es top 30, je suis top 30 et j'arrive en finale d'un tournoi, quand tu rentres, qu'est-ce que t'as fait? Tu dis pas j'ai fini deuxième, Tu dis j'ai perdu en finale. Ouais. Et donc en fait cette sémantique, moi elle a été mais tellement pesante, je m'en suis rendu compte après, mais en fait cette sémantique de la défaite, je vivais tout le temps. Donc en fait la défaite accumulée à la défaite faisait que ça me rendait malheureuse alors qu'il y avait des résultats et que je tirais quand même des bénéfices de mon physique.
Comment ça se passait quand tu perdais contre une adversaire, chaque fois que tu l'affrontais, tu pensais que c'était perdu direct ou
les toutes meilleures, oui, quand tu joues une top 5 ou une top 10 mondiale, j'en ai battu deux ou trois dans ma carrière, mais c'est vrai que bon, t'y penses pas quand tu rentres sur le court, mais bon, quand tu sors, j'ai envie de dire, il y a une forme de logique qui s'installe.
Donc quand tu rentres, t'y penses pas, et au contraire, c'est peut-être une source de motivation, et après, c'est un peu une excuse.
Bah, c'est une excuse, oui. Et puis alors, quand je rentrais sur... C'est pour ça que je parlais ça tout à l'heure. Quand je rentrais sur un court central, quand je rentre sur le court central de l'Open d'Australie, qui fait 50 à l'ombre, je joue Lindsay Davenport, qui fait 1m98, que Autos, t'as donc l'adversaire, l'arbitre, et toi, déjà, pour la photo, tu dis, oh, tu essaies de t'écarter un peu, tu vois. Et déjà que le court, la dimension du court est la même, mais les... La surface du court est plus grande. Je me sentais perdue. Et ma plus grande peur, c'était de faire 1, 2, 3, 4-0 et de commencer à jouer à 4-0 ou à 5-0 et d'être là à courir après. Et donc, j'avais envie de me mettre dans un trou de souris. C'est pour ça que je disais de jouer plus souvent sur les grands courts permet d'appréhender. À chaque fois que j'ai joué sur un court central, en fait, j'avais une sorte de chape de plomb sur mes épaules parce que j'en ai pas assez joué ou parce que je le préparais pas assez, en fait, au final.
On va juste terminer avec ce que j'entendais David réagir quand je te posais la question, Sarah, sur est-ce que c'est difficile d'admettre que l'autre est meilleur que soi. Est-ce que ça t'est arrivé, ça aussi, David?
Personne n'est meilleur que David Douillet.
Ouais, c'est ce que j'ai posé cette question.
Non,
comment tu peux poser
vrai.
Cette question à David?
Non, mais tu vois, quand j'étais junior, je me faisais éclater, hein, éclater par les meilleurs mondiaux, le champion olympique, le champion du monde de l'époque, etc., etc. Puis un jour, j'en ai battu un. C'était au Toit de Paris, au premier tour du Toit de Paris, je rencontre le champion olympique en titre, qui était un Coréen, et je le bats,
à plat de
vraiment au bout. Non, justement, j'ai ramé comme un malade et tout. Et j'ai tellement ramé, j'étais tellement cuit que après je l'ai battu, mais après c'était fini. J'avais tout donné et je me suis fait exploser les combats qui ont suivi. Mais par contre, je me suis dit une chose, et ça a été un vrai déclic. Je me suis dit bon. J'arrive à battre un mec de ce niveau. Si j'ai la capacité physique de le battre et de pouvoir récupérer et d'en battre un autre et un autre et un autre, là, ben, je peux être le meilleur.
Et ça change.
Et j'ai
tout.
Travaillé comme ça.
Et oui, et ça change tout après dans le mindset avant d'aborder évidemment les prochains combats. Merci beaucoup les GG de vous être confiés sur vos limites, sur l'acceptation aussi de ces limites qui sont parfois difficiles quand on est un sportif de haut niveau. 11h27 sur RMC. Dans quelques instants sur le buzzer, on va faire le bilan des Tours de France hommes et femmes et notamment de nos Français. Et puis juste après, il sera temps de jouer. On vous attend d'ailleurs au 32-16 pour venir participer au jeu du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
11h30 sur RMC, les grandes gueules du sport continuent jusqu'à midi avec Fred Weiss, David Douillet, Sarah Pitkowski, les jeux du sport dans quelques instants. Venez participer en appelant le 32-16, vous envoyez sport SPORT au 7-32-16. Mais d'abord sur le buzzer, on va parler Tour de France hommes et femmes.
RMC, les GG sur le buzzer.
Aujourd'hui se termine donc le Tour de France Femmes avec une dernière étape à Nice à suivre dans l'intégral Tour des 17h sur RMC. Et on se dirige malheureusement vers une grande boucle sans victoire française, ce qui était déjà le cas quelques semaines plus tôt sur le Tour de France Hommes. On va faire le bilan justement de nos Français avec Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut Flora, salut à toutes et à tous.
Salut
Pierre.
Alors chez les femmes, abandon de Pauline Ferrand-Prévot, pas de victoire d'étape. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif sur ce Tour de France pour les Françaises ?
Trois Françaises ont fait parler d'elle quand même. Pauline Ferrand-Prévot, pour les mauvaises raisons, tu l'as dit, on l'attendait beaucoup, elle n'a pas réussi à suivre le rythme. Cédrine Kerbol, elle joue le général, elle est sixième au départ ce matin, juste derrière les plus fortes. Et la jeune championne de France, Célia Géry, équipière modèle de Demi Vollering, est souvent à l'attaque. Le sélectionneur des Bleus, Paul Brousse, dresse le bilan de ce Tour de France.
Lyon, j'ai envie de dire, il est plutôt bon. On avait au départ de ce Tour de France Cédrine Carbaol, qui tient très bien son rang puisqu'elle est sixième du classement général. Après Pauline, bah voilà, on sait ce qu'il en est. Elle était leader bien sûr de son équipe. Elle venait remettre son titre en jeu ici sur le Tour de France. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. J'allais finir avec Célia Giry. Là, par contre, on a, je pense, pas la révélation parce que c'était déjà révélé en début de saison avec une victoire sur le Tour d'Italie et sur la Flèche Brabançonne, mais la confirmation qu'on a une très bonne championne française. Hein. Célia, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler.
Le fait est que pour la première fois depuis 2023, les Françaises n'ont pas remporté d'étape. L'an dernier, Maëva Skiban en avait raflé deux. Elle a dû se cantonner cette saison à un rôle de coéquipière. Un tour frustrant notamment pour Cédrine Carbaol qui ne se contente pas de sa place honorifique de meilleure Française.
C'est le Tour de France qui compte. C'est pas le classement interfrançais, c'est le classement tout court. Donc on se bat tous les jours. Tous les jours, c'est la guerre. Tous les jours, il y a des choses auxquelles on s'attend pas. Qui arrive, jusqu'au bout, on va se battre.
Et pour les autres, plus en retrait, ça a été très compliqué de briller. Juliette Berthet est 18e, Émilie Morier 22e. Aucune Française n'a réussi à vraiment peser sur la course. Il faut rappeler que sur les 8 étapes, 7 ont été remportées par des leaders d'équipe. Il faut être très très fort pour gagner une étape, un peu comme chez les hommes, où on le rappelle, aucun Français n'a levé les bras non plus et où les stars ont presque tout raflé. Pour les hommes, l'autre consolation, 3 Français dans le top 10. Paul Sexas 4e, Lenny Martinez 5e et Jordan Jegat 10e.
Évidemment, avec classement général qui fait toujours son petit effet. Tu restes avec nous, évidemment, Pierre. Les GG sur le buzzer, je vous demande donc si les coureuses et coureurs français ne se sont pas trompés d'objectif, finalement, sur ces Tours de France. David.
Non.
Fred.
Non.
Sarah.
Un grand oui.
Ah, voilà. Je vais démarrer par le grand oui, parce que j'aime bien quand il y a un avis un petit peu tranché comme ça.
Fred, il me regarde.
Quand on parle d'objectif, quand on parle d'objectif, évidemment, c'est toujours compliqué d'aller chercher une victoire d'étape quand on joue le général. Et à l'inverse, là, c'est un petit peu cadenassé en ce moment par les favoris, donc compliqué d'aller chercher une victoire d'étape. Mais où était l'erreur d'objectif, selon toi?
Alors, pourquoi je dis oui? Parce qu'en fait, le Tour de France, c'est peut-être un des rares événements sportifs où tu peux briller et performer à différents niveaux. Un, avec une victoire d'étape et aussi avec des maillots distinctifs. Et on sait qu'on peut pas, de toute manière, on peut pas jouer sur tous les tableaux où tu t'appelles Pogacar. Voilà. C'est toujours pareil. Il y a toujours des exceptions. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage. Après, qui suis-je pour juger les cyclistes français ou françaises? En tout cas, l'engouement du Tour de France avec les Français depuis toujours, il est marqué par des victoires d'étape, par lorsqu'un Français porte le maillot jaune pendant quelques jours, ou quand tu arrives sur les Champs-Élysées avec le maillot à pois ou avec le maillot blanc. Donc en fait, il y a plein de manières de faire briller le cyclisme français dans le Tour de France quand on ne peut pas viser la victoire finale. Et je trouve voilà, c'est triste qu'en 2026, ni chez les femmes, ni chez les hommes, on ait une victoire d'étape. Chez les hommes, depuis 2015, il y a toujours au moins un Français qui gagne une victoire d'étape à minima, sauf une année en 2021. Le Tour de France féminin, nouvelle formule, donc depuis 6 ans, eh bien, en 2024, on l'a dit, Cédrine Carbaol, elle a gagné une victoire d'étape, elle a eu le maillot blanc l'année d'avant. Puis alors, l'année dernière, évidemment, en 2025, on a eu 4 victoires d'étape et la victoire. Donc là, c'était le sommet. Champagne. Mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'ils se sont trompés d'objectif? Oui, parce que on peut briller sur le Tour de France avec des victoires d'étape et des maillots. Et c'est dur de se dire que le Tour de France féminin et masculin, avec cet engouement, que fin 2026, bon, il reste une étape chez les femmes.
En général, à mon avis, ça va se jouer effectivement entre
Fanny,
les. Ouais, ça va se jouer entre les favorites sur cette dernière étape.
Donc objectif, j'ai envie de dire tous les objectifs, voilà, ils sont un peu ratés. Quoi.
C'est vrai qu'on peut parler évidemment. T'as raison. Des maillots distinctifs qui sont à un moment un moyen de briller en étant sur le podium final du tour.
Ouais, alors moi, quand j'écoute Sarah, je me dis que je suis content d'écouter RMC et d'écouter De Jérôme pour comprendre un petit peu mieux le cyclisme. Non, mais c'est hyper, hyper intéressant d'écouter ce que dit Jérôme Coppel par rapport à ça. Justement, moi, j'avais aussi cette vision de je veux voir les Françaises lever les bras, etc.
Qui est la vision générale.
Mais réellement, voir trois Français dans le top 10 chez les garçons, c'est juste extraordinaire. C'est juste incroyable.
C'est juste magnifique.
Il faut se rendre compte de combien il y a de coureurs au départ, combien il y a de coureurs cyclistes dans le monde, et se retrouver 4 et 5 dans un Tour de France, c'est incroyable. Ensuite,
On a déjà eu des 2 et 3, avec Perrault et Bardet.
Je suis d'accord, mais ça fait quelques années quand même que c'est un petit peu plus compliqué, et notre Tour de France est plutôt réussi, surtout avec des arrivées de jeunes coureurs qui étaient tous les deux 2 et 3 du maillot blanc. Donc ça veut dire qu'on a aussi la jeunesse qui arrive du côté des garçons.
Objectivement, ensuite, tu retiens un 5e du Tour de France là dans quelques années?
Objectivement, si t'es pas français, non. Mais français, oui. Parce que justement,
est-ce que tu retiens pas plus une victoire d'étape en haut du Mont Ventoux, par exemple? Moi, j'ai des doutes.
Je vais passer sur le Tour de France femme. Je pense que mon exposé et se suffit à lui-même pour les garçons. Je vais passer sur le Tour de France.
Tu vois, on a tous des doutes.
Mais vous trompez certainement.
Ensuite, ne discutons pas.
On va parler du Tour de France femme. L'année dernière, on a effectivement 4 victoires d'étape, les 4 dernières victoires. Donc, on a 2 par Pauline Ferrand-Prévot, qui était pas du tout dans le coup. Et donc, son objectif, c'était de gagner le Tour. Donc, évidemment qu'elle voulait gagner les étapes, sauf qu'elle n'avait pas le coffre pour le faire.
C'était pas forcément le cas. Hein. Tu pouvais gagner le Tour sans gagner beaucoup d'étapes.
Ce que je veux dire, elle est capable de le faire quand elle est en forme. Elle n'est pas capable de le faire quand elle n'est pas en forme. Donc c'est plutôt logique. Donc c'est pas anormal qu'elle n'ait pas gagné d'étape, Pauline Ferrand-Prévot. Ensuite, on a Maëva Skiban qui en a gagné 2. Mais il faut se rappeler le contexte aussi de l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa leader, au bout de 3 jours de course, abandonne. Donc on se retrouve à devenir de coéquipière, à aider quelqu'un à aller chercher quelque chose, voir le maillot jaune, à avoir un peu plus de liberté, avoir des options d'aller gagner les courses, etc. Je pense que l'exposé qui a été fait...
Del Toro était lieutenant de Pogacar, il a gagné les étapes.
Il y avait une telle domination, c'est Pogacar qui lui a offert.
Pogacar n'est pas là, Del Toro ne gagne jamais.
Les stratégies, elles ne sont pas les mêmes sur le Tour de France masculin et féminin, encore une fois.
Les stratégies sur les féminins, c'est quasiment que des leaders qui ont gagné sur le Tour masculin.
Mais attends, ça a toujours été ça sur le Tour de France.
Alors non, il y avait un petit peu plus.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des leaders et des lieutenants. Mais ça n'a jamais empêché des lieutenants de gagner des étapes.
Évidemment, sauf que depuis
c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus des têtes d'affiche qui gagnent
chez les garçons, c'est de plus en plus des têtes d'affiche qui gagnent chez les filles, et il y a de moins en moins d'options. Et quand tu es une coureuse qui n'est pas leader de ton équipe et qui est coéquipière, bah de plus en plus, son job, c'est vraiment d'amener cette personne à performer. Et les Françaises l'ont fait magnifiquement, parce que Demi Vollering, elle est bien là où elle devrait être, grâce à une Française notamment. Donc à partir de là, elles ont fait un bon Tour de France. On a 3 Français dans le top 10 chez les garçons, une Française dans le top 10 chez les filles. Rien à dire.
On va faire le point peut-être avant de t'entendre aussi, David, avec Pierre sur ce Tour de France homme. Effectivement, je t'entendais dire, Pierre, c'est de moins en moins possible effectivement de gagner parce que les leaders raflent tout. Oui, c'est vrai.
Exactement, à part si on enlève les étapes de sprint où on n'a pas de sprinter français au niveau, il y a finalement que 2 étapes qui ont été remportées par des coureurs, on va dire, de second rang, Mauro Schmidt et Søren Warenskold. Si on prend les 9 dernières étapes, c'est des victoires de Pogacar, Evenepoel, Philipsen, Carapaz, Pogacar, Carapaz, Van Der Poel. Les Français ne sont pas invités sur ces étapes-là, et sur les classements pour les maillots, le maillot jaune est pour Pogacar, le maillot blanc à pois rouge est pour Pogacar, et le maillot blanc est pour Juan Ayuso qui était devant, Del Toro pardon, qui était devant. Del Toro qui était devant Paul Sexas au classement général. Donc c'était compliqué aussi d'aller chercher ces maillots distinctifs.
Bien évidemment, mais on a le droit objectivement, David, on va t'écouter, mais de pas être satisfait non plus de ce résultat-là. C'est évidemment l'objet du débat.
Il peut être encourageant, mais pas satisfaisant.
À toi, David.
Vous savez, j'ai fait un petit calcul vite fait. Alors, sur l'ensemble des Français.
Attends, David, qu'on t'entend loin. Oui, voilà, vas-y.
Là, vous m'entendez. Oui. J'ai pas le micro en face de la bouche. Combien y a-t-il chez les filles et chez les garçons? Il y avait 30 Français engagés au Tour de France masculin, enfin une trentaine de chaque côté, j'ai pas le chiffre précis. C'est par rapport au cyclisme mondial et par rapport aux autres nationalités, à la diversité des nationalités qui concourent, c'est énorme.
Non, ben oui.
Énorme. Tu vois, c'est monstrueux. Donc, tous ces coureurs sont des équipiers, aident à la performance des uns et des autres.
Et des leaders, Paul Sexas, c'est un leader.
et des tauliers. Voilà, c'est ça. Donc, côté équipier, vous l'avez tous clairement dit, c'est très compliqué d'aller chercher une étape. Et quand tu joues le général, ce qui était le cas de notre ami Sexas, faire une étape, c'est compliqué là aussi. Parce que tu jettes pas toutes tes forces. Parce
mais
que
surtout que c'est un néophyte.
Il y a une étape de malade, etc. etc. C'était son premier tour, tu as raison. C'était son premier tour. Mais et c'est en cela que je suis en plein accord avec Fred. Vous vous rendez pas compte de l'exploit qu'ont fait nos Français à ce Tour de France-là, en particulier, qui était un des plus durs, si ce n'est le plus dur, qui ait jamais été organisé. Monstrueux. Et tout ça est gommé par, évidemment, un surclassement de Tahiti Podachar, qui s'est même offert le luxe de devenir équipier de son propre équipier, pour éviter que Sexas prenne le maillot blanc. Ouais. Parce que si Pogacar est pas là, faut quand même le rappeler, Del Toro, enfin, c'est mon avis, il chope jamais le maillot blanc.
C'est
extrêmement clair. Bon, ben voilà. Donc voilà. Alors, le bémol, c'est Pauline qui coince là, dans ce tour-là. Mais si elle coince pas, je suis pas sûr qu'on ait ce débat. Voilà.
Ça. Je vais vous donner, je vais m'appuyer sur un autre exemple. Lenny Martinez, qui est leader, co-leader de son équipe de la Bahreïn.
J'attendais pas forcément à finir cinquième, je pense.
Mais non, mais je pense que c'était pas l'objectif. Lenny Martinez, la cinquième place est la juste récompense du fait d'être dans les échappées tous les jours, parce que son objectif, c'était une victoire d'étape.
Ben donc c'est parfait. Ça veut dire que tous les jours il est performant. Ça veut dire que tous les jours il n'est pas au niveau des autres pour gagner.
Il n'a pas réalisé l'objectif qui était de gagner une victoire d'étape.
Non, mais il a fait mieux.
Tu vois les choses.
Est-ce qu'il avait les équipiers? Est-ce qu'il avait des équipiers? Non, il n'avait pas l'équipe pour aller chercher une victoire d'étape face aux autres
donc
équipes.
David, sincèrement, donc il n'y a aucune étape, il n'y a aucune équipe qui a le staff et les équipiers et le leader pour contrecarrer l'équipe de Pogacar. Donc dans ces cas-là, on tente rien.
Bah oui,
on tente jamais rien parce qu'il n'y a pas une équipe plus forte.
Il finit cinquième. Il est récompensé comme tu l'as dit. Il est récompensé
d'avoir été cinquième. Mais c'est pas son objectif principal de base.
C'est pas l'objectif qui est fixé par l'équipe.
Oui, mais on l'a expliqué. Ce qui gagne les étapes, c'est des monstres. Et Lenny Martinez n'est peut-être pas à ce niveau-là sur une étape.
Mais il a eu l'occasion, il a fait une petite erreur de stratégie. Il y a eu une étape où il était avec Carapace. Il n'a pas voulu prendre le relais.
Oui, mais il n'y avait que deux étapes où
il y avait une chance.
Tu parles de ça, Pierre pourra aussi peut-être nous confirmer, parce que si on fait le parallèle avec Tour de France Femmes, Célia Géry n'a pas été loin non plus de remporter une étape aussi au sprint à un moment donné sur l'arrivée.
Oui, non, totalement sur l'arrivée à Toulon-sur-Rhône.
Ça se joue à rien.
Par Kim Lecourte, il lui a manqué un peu de jambes sur la fin, mais elle était à l'avant également.
Oui, donc il y a eu des possibilités.
Je vais aussi te poser une question, Pierre. C'est-à-dire que tu peux être équipier, mais à un moment, tu peux aussi t'enlever de ce rôle d'équipier avec l'effet de course. Il y a des moments des équipiers qui passent devant.
Comme hier, Maëva Skiban qui est devant. Si elle tombe pas, on n'a peut-être pas ce débat.
Voilà.
Non, ça serait sans doute revenu, Fred, derrière.
Oui, mais on a peut-être pas.
Ce qui est vrai, c'est que. Oui, bien sûr, elles ont parfois un bon de sortie, mais là où ça devient très dur pour ces équipières comme Maëva Skiban ou Célia Géry, c'est qu'elles ont une opportunité dans le Tour de France, après avoir fait des efforts énormes pour leur leader, de tenter d'aller à l'avant, et elles ont que cette chance-là. Donc, évidemment que ça complique les choses par rapport à un Lenny Martinez qui, Sarah a raison, avait tout le temps le bon de sortie et pouvait tout le temps tenter d'aller chercher quelque chose.
Et ça ouvrirait peut-être sur un prochain débat effectivement sur le changement de course qui est devenu en fait le Tour de France, c'est-à-dire que ce sont que les leaders ou les coureurs les plus favoris du Tour qui sont en capacité de gagner des étapes.
Mais
parce qu'on a changé
le bilan,
façon de courir
le bilan
aussi.
Est là depuis 2015. Mis à part 2021, il y a toujours un Français qui a gagné une victoire d'étape.
Oui,
vous
mais
pouvez
on
pas
dire
nous dire qu'aujourd'hui,
mais si,
le,
je peux te
le
dire
son
problème, parce que l'évolution a fait que
les objectifs ont été réalisés. C'est pas possible.
Mais les objectifs sont plus que réalisés. 4, 5 et dans les 10 premiers, 3, dans les 10 premiers, c'est plus que réalisé, Sarah.
Et Marc Madiot le dirait mieux que moi, si on supprime les oreillettes,
Oui, c'est vrai.
Ce sera l'objet d'un autre débat, effectivement, par la suite. 11h45 sur AMC. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. On te retrouve tout à l'heure, évidemment, 17h, pour suivre dans l'intégral tour, la dernière étape de ce Tour de France femme qui va déterminer la vainqueur finale, puisqu'on vous rappelle qu'il n'y a que 8 secondes d'écart entre Demi Vollering et Nievi Adoma, sa poursuivante. Restez bien avec nous. On revient tout de suite sur AMC pour les Jeux du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
11h48, la dernière ligne de, des grandes gueules du sport. Je vais y arriver. David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Veil sont avec nous. Et c'est parti, on va jouer.
RMC, les jeux du sport.
Anthony Resch nous a rejoint. Salut Anto.
Salut Flora, bonjour à tous.
Bonjour.
Bon vainqueur du quiz.
Je t'en veux toujours.
On va accueillir nos deux auditeurs, Xavier et Tony, qui vont jouer avec nous ce matin. Salut messieurs.
Salut.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour. Les gars, je vous rappelle que vous pouvez remporter un an d'abonnement à Basic Fit pour aller vous entraîner tous les jours dans la salle de sport en vacances.
Avec David Douillet.
Pour digérer les vacances, c'est pas mal. Les équipes du jour.
Ça n'y aura pas au moins. Non, ça c'est sûr.
On va défaire le duo tennistique. Sarah, tu seras avec David.
Ok.
Fred avec Anthony. Excellent. Voilà pour les équipes.
Et voilà.
Allez. Xavier, et voilà. Je te laisse choisir avec qui tu veux jouer. Sarah, David d'un côté, Fred, Anthony de l'autre.
Allez, Sarah, David.
Très bien pour Xavier, Tony. Tu seras donc avec Fred et Anthony. Et Anthony. Oui, et Anthony. Il y a Tony avec Anthony.
Excellent.
Ça va être simple pour moi pour comprendre. Première question pour les GG. Question à une réponse. Combien de titres de champion d'Europe détient Léon Marchand ?
Zéro.
Bonne réponse.
Bien joué, Fred. Ah, t'es motivé quand t'es avec moi.
Non, ça motive moyennement.
Deuxième question pour les GG. Toujours une seule réponse. Où se termine le Tour de France ?
Nice.
Femme. Bonne réponse, Sarah.
Bon.
Un partout.
En fait, David, il est là pour compter les points. Il joue pas, il compte les points.
Non, mais c'est pas facile pour moi.
Bah oui, c'est dur.
On sait que c'est pas facile pour toi, David. Donc, t'as pas
question
besoin de nous
pour les auditeurs. Xavier, Tony, dites-moi bien votre prénom que je sache qui a répondu. Quel vainqueur du Tour de France a annoncé sa participation au Tour d'Espagne cette semaine ?
Tony Vingegaard.
Non, mauvaise réponse.
Non.
Xavier, tu peux tenter.
Ah, Xavier, Vingegaard.
Non, il vient de le dire. Oui, il vient de le dire.
Ah, je pas entendu.
Non, c'était Tadej Pogacar. Ah,
ouais. Les gars, vous n'avez pas dit Pogacar.
Pogacar.
En plus, je vous ai donné un indice.
C'était la seule réponse que j'avais, moi.
Allez, troisième question. Question et une réponse. Le plus proche l'emporte. Écoutez bien. Le ballon de la main de Dieu, Diego Maradona, est
million.
Alors là.
C'est moi.
Ouais, c'est Sarah.
Là, c'est une égalité totale.
Je crois que c'est une égalité parfaite.
Donc, vraiment, il n'y aura pas de points. Donc, juste, je vais terminer la question pour ceux qui n'avaient pas entendu.
À combien
était estimé aux enchères le ballon de la main de Dieu de Diego Maradona ? C'était effectivement 10 millions d'euros. Question à une réponse. Quelle est la distance maximale disputée lors des épreuves d'eau libre ?
3 km.
10 km.
Bonne réponse, Anthony.
Ben voilà, Anthony, t'es pas venu pour rien. Ça fait plaisir.
Épreuve olympique. Question pour les auditeurs. J'espère que vous allez être meilleurs, messieurs. Xavier, Tony. Quel international français a signé au PSG ce jeudi ?
Xavier.
Oui ?
Digne.
Non.
Non. Tony. Xavier, on en a parlé tout à l'heure.
À qui vous ?
Bonne réponse.
Voilà.
Ça fait 3-1.
Ça pousse pas, les gars, quand même. Hein.
Fred, Anthony et Tony. On va passer à la question à élimination, messieurs. On va prendre le temps en même temps. Elle est pointue.
Voilà. Oh là là.
C'est pour vous dire ça. Citez-moi les GG, s'il vous plaît. Je vous rappelle que ça vaut 2 points. Les champions d'Europe d'athlétisme au 21e siècle. Donc, depuis les championnats d'Europe de 2002 à Munich.
Oh là.
Il y en a 21. Précisément. Ça va, il y a des noms qui sont faciles.
Alors,
Anthony, je te vois froncer les yeux.
Toute nationalité confondue ?
Non, français.
Ah, pardon.
Alors, David, on est parti, je t'écoute. Un champion d'Europe d'athlétisme français au 21e siècle.
Trop tard. Bip, bip, bip.
David, non, t'as
attends,
pas
Christophe Lemaître. Non, j'avais un problème de micro.
Ah,
Christophe Lemaître.
Oui, bonne réponse. Bonne réponse. Anthony.
René Lamotte.
René Lamotte. Alors attends, je cherche. Non, je n'ai pas René Lamotte.
Bah, j'en ai pas, moi.
Sarah.
Marche à pied, je l'ai.
Oui, comment
oui,
il s'appelle
Oui, effectivement. C'est lui. Tout à fait. 4.
C'est bon.
Diniz, Johan Diniz.
Oui, bonne réponse sur le gong.
Vico.
Jimmy Vico. Non.
Ah bon ?
C'est une mauvaise réponse.
Ça dit depuis quelle année ?
Depuis le 21e siècle, donc depuis 2002.
On a dit fille.
David.
Bah c'est fini. On a perdu.
Si le décathlonien Meilleur. Kevin Meilleur.
Non, je suis pas sûre qu'il soit champion d'Europe.
Il est pas champion d'Europe. Ça va être la Queen. Il n'est pas champion d'Europe. Champion du monde, mais pas champion d'Europe.
Christine Aron.
Et non, c'est juste avant 98. Par contre, alors attendons, mais c'est quand même vous qui gagnez parce que vous êtes, vous avez donné plus de réponses. Par contre, les amis, Mehdi Bala, Stéphane Diagana, Muriel Urtis, Marc Krakil, Mayedine Mekissi, Romain Barras, Dimitri Bascou, Pascal Martino Lagarde, Gabriel Tual.
C'est le stress.
Bon, ça fait combien le score là?
Verretti meilleur parce que franchement, je suis pas sûr.
Je suis sûr, enfin, t'inquiète pas, David. Trois partout. Attention. Okay. On va relancer avec une question pour les auditeurs.
Bon, Xavier, ça y est, allez, hein.
Xavier et Tony, où se déroulent les championnats d'Europe de natation?
Xavier.
Oui.
Nice.
Non. Mauvaise réponse. Tony, à toi.
Tony, réfléchis bien.
Marseille.
Non, mais les garçons, c'est à Paris.
Les gênés, il va falloir se débrouiller tout seul ce matin. Question et une réponse. Quel champion du monde est proche de signer au PSG?
Torres.
Oui, ouais, merci.
Torres, la mienne.
Chef de l'agence, quand même.
Merci. Merci. Je ne me rappelais plus, j'arrive plus.
Attention. Les GG, une réponse. Qui est la première Française au classement général du Tour de France?
Carboel.
Pardon?
Carboel.
Kerbaol.
Non, mais ça, ça compte pas, ça.
Mais bien sûr,
ça fait 5-3. Ça fait 5-3.
Et son prénom?
Cédrine.
Oui. Sarah, David, est-ce que vous voulez faire une petite question impossible?
On y va.
Tu veux, Sarah?
Ouais.
Présente. Allez. Question impossible, Sarah, tout se joue là-dessus. Roger Federer détient encore le record du nombre de semaines passées dans le top 10. À 10 semaines près, quel est son record?
Pourquoi ils ont toujours à des semaines près? Moi,
c'est
toujours
au truc exact. C'est super dur, Fred, arrête.
Ah, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça.
Et te regarde, alors tu, si tu l'aides, tu peux pas, vous n'êtes pas dans la même équipe.
Je dirais 210 semaines.
Ah non, alors là, on est très loin. C'était 968 semaines pour Roger Federer.
Moins 4.
Ben oui, mais du coup, moins 2.
Moins 1.
T'en mais du pas coup, c'est terminé. Bah, c'est fini, Fred et Anthony.
Mais voilà.
Il faut avoir Anthony dans son équipe. Bien joué, Tony. T'as choisi le bon. Ouais. Tony, tu repars avec ton abonnement d'un an pour Basic Fit.
Et tu le mérites. Hein.
Jouez au jeu du sport sur RMC et gagnez un an d'abonnement dans le club Basic Fit de votre choix. Basic Fit, parrain du classement par équipe et partenaire fitness officiel du Tour de France 2026.
Bravo à tous, n'hésitez pas à venir jouer avec nous pour la semaine prochaine. Les GG seront de retour dès 9h avec Georges Quirino qui sera de retour aux manettes. 32-16 évidemment pour appeler et venir jouer avec nous. Il est 11h56, vous restez bien sur RMC. Dans quelques instants, le rendez-vous des parieurs, les paris RMC débarquent avec Christophe Payet, Lionel Charbonnier, Pascal Duprat. Toute l'équipe au rendez-vous, c'est tout de suite sur RMC.